Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Olivier Spilmont, bonjour.
Bonjour.
Alors ce n'est pas forcément, principalement votre qualité de claveciniste que je vous reçois, mais parce que vous venez de faire paraître pour le label Parati un disque, et vous êtes à la tête de l'ensemble Aliamens.
Tout à fait.
Disque consacré à Bach,
oui.
Auquel vous aviez déjà consacré un disque il y a quelques temps. Pour
exactement.
Trois cantates.
Trois cantates aussi, oui.
Donc ça, vous êtes à la tête de cet ensemble dont on va parler, avec tous les musiciens qui sont cités. Et ce sont des musiciens avec lesquels vous travaillez habituellement, donc, de votre ensemble.
Oui, tout à fait. Oui, c'est... Oui. Des musiciens avec lesquels on travaille depuis plusieurs années. Ouais.
Donc trois cantates de Bach et un disque qui s'appelle Anti-Mélancolicus.
Ouais.
Donc ce qui fait référence à un traité que Bach avait en sa possession.
Oui, certainement. On n'est pas sûr qu'il l'avait en sa possession. Enfin, je crois, mais il avait noté ce titre sur la page de garde d'un cahier qu'il avait fait pour sa femme. Anna Magdalena, certainement comme aide-mémoire, il voulait se souvenir que c'était un ouvrage qu'il voulait acquérir.
On en parlait hors micro. Quand on écoute ces trois cantates, on est frappé par l'instrumentation qui est magnifique, presque opulente. Hein.
Mm-hmm.
Et vous me disiez donc que c'est...
Ce sont les deux cantates à l'extrémité du disque, la première et la troisième, ce sont des cantates de jeunesse. Et donc, ils font appel à un instrumentarium assez ancien, dans le sens où, Bach est marqué là par les instruments qu'utilisait par exemple Buxtehude dans ses concerts spirituels. Donc, ils sont déjà pour l'époque de vieux instruments, la viole de gambe et la flûte à bec. La viole, finalement, Bach l'a peu utilisée. Dans les passions, il y a consacré quelques sonates, mais dans les cantates, c'est pareil, il l'a peu utilisé parce que c'est un instrument qui était déjà en train de partir sur la pointe des pieds.
Mais il a une relation assez intéressante par rapport à la viole de gambe, parce qu'effectivement, il n'a rien composé comme instrument soliste,
ouais.
Mais enfin, cet instrument tient une place quand même tellement fondamentale dans les passions, vous le disiez.
Oui, tout à fait, c'est un l'instrument a un rôle bien particulier, mais Bach utilise toujours, évidemment, les choix des couleurs qu'il veut donner à la partition sont toujours très, très mûrement réfléchis. Mais il utilise toujours les instruments d'une manière symbolique et rhétorique. La flûte à bec aussi.
La flûte à bec signifie donc plus la mort ou...
Oui, c'est ça. La flûte à bec est souvent, en effet, présente dans les cantates funèbres ou dans les moments qui, en effet, parlent de la mort, mais souvent d'une façon assez douce et sereine. Pour la flûte à bec.
C'est étonnant, je vais peut-être vous poser une question hors sujet et paradoxale, qu'il attache tellement d'importance aux instruments et que ceci ait une telle signification, alors qu'il a passé son temps à transcrire et qu'aujourd'hui, beaucoup de musiciens transcrivent les œuvres de Bach, sans dommage en fait, parce qu'une œuvre de Bach, qu'elle soit jouée au clavecin ou à d'autres instruments, il y a une solidité qui fait que...
Oui, je pense que dans les transcriptions, il y a un aspect aussi très pragmatique, c'est-à-dire que quand on ne dispose pas d'un instrument, on le fait avec un autre. Et puis, d'autre part, ça met son écriture, en tout cas moi je le vis comme ça, ça teste aussi son écriture, c'est-à-dire si l'écriture est solide, si le contrepoint est solide, finalement l'instrument apporte peu.
Qu'est-ce qui fait quand on écoute cette musique, quelle que soit la thématique, parce que c'est quand même des thématiques très douloureuses que ces cantates, on est quand même pris d'un sentiment, d'une certaine euphorie en tant qu'auditeur. Dès qu'on écoute du Bach, il y a à la fois quelque chose d'imposant qui peut être douloureux, mais il y a aussi un sentiment qui nous prend d'une musique irrésistible aussi.
Oui. Je crois que c'est lié au titre même de cet album. Comment expliquer ça en peu de mots?
Il y a quand même un mystère qui fait que cette musique, elle est toujours...
Ce mystère, je ne peux pas l'expliquer, il restera intact, toujours. Sinon, par rapport à... à cette ambivalence de sentiments. Mais oui, en effet, les cantates funèbres, c'est pour un moment bien particulier. Mais bien évidemment, pour l'homme du début du 18e qu'il est à ce moment-là, pour chaque homme du début du 18e, la religion est extrêmement présente et la mort est vue comme une libération. Et chez Bach particulièrement. Particulièrement.
Il avait une culture religieuse énorme.
Ah oui, énorme. Je pense que oui, tout à fait. Dans chaque cantate, il fait, il exprime toute sa connaissance théologique. Il fait une exégèse des textes. C'était un grand connaisseur des textes. Voilà. C'est extrêmement important pour lui.
Ce disque vient de paraître pour le label Parati, comme votre précédent de mémoire. Il y a un texte qui l'accompagne, qui est de Gilles Cantagrel. Alors, quand on pense au Sommit et qui écrivent sur Bach, bien sûr, on pense inévitablement son biographe.
Français.
Dont la vie est tant liée à celle de Bach, bien qu'il n'ait pas écrit que sur Bach. Comment ça s'est passé pour qu'il écrive un texte pour vous ? C'est vous qui lui avez demandé
Ah oui, très simplement. Je lui ai envoyé un mail. Il était je ne sais où d'ailleurs, perdu
à Leipzig,
en Europe du Nord. Et quand je lui ai énoncé le projet, il a été partant et il nous a fait ce texte.
Ouais. Et donc vous avez choisi 3 cantates.
Ouais.
Parce qu'elles ont une signification religieuse particulière.
Mais comme pour le premier album, je voulais inscrire le choix de ces cantates sur une sorte de chemin symbolique. Il faut qu'il y ait un fil rouge en fait pour écouter les cantates parce que
sur 200 et quelques cantates, oui.
Oui, voilà, mais surtout parce qu'elles peuvent d'une certaine manière, elles peuvent s'entretuer entre elles. D'abord en termes sémantiques et puis aussi au niveau musical et donc il ne faut pas oublier que ce sont des œuvres qui n'étaient pas des œuvres de concert, ce sont des œuvres qui sont conçues pour faire réfléchir déjà à l'époque, c'est-à-dire que c'est un prêche sonore en quelque sorte. Et donc elles sont faites pour interpeller, pour réfléchir, pour déstabiliser et puis pour faire passer un message. Enfin, j'ai en gros dénoncé un peu le but de la rhétorique à l'époque et ces cantates sont écrites dans ce sens-là. Et donc choisir 3 cantates, il faut évidemment qu'il y ait un fil rouge, qu'il y ait un chemin, qu'il y ait une dramaturgie qui sous-tende le trajet.
Alors vous le disiez, 2 de ces cantates sont des cantates de jeunesse,
ouais.
L'autre plus d'une époque de maturité de Bach.
Oui, tout à fait.
Mais, et alors une autre question, tant pis, ouais. Quand on écoute du Bach, alors il y a des œuvres, par exemple le Caprice sur le départ du frère aîné, qui est une de ses premières grandes œuvres pour clavier seul. On nous dit que ça a été écrit à 20 ans, mais est-ce qu'il y a chez Bach, comme on peut l'écouter chez Beethoven ou d'autres compositeurs beaucoup plus tardifs, est-ce qu'on peut distinguer les époques sans connaître la date de composition ? C'est-à-dire, vous, quand vous écoutez une cantate, vous pouvez savoir...
Oui. Mais déjà, parce que comme je disais tout à l'heure, par exemple, les cantates de jeunesse sont faites sur le modèle ancien, c'est-à-dire le modèle du concert spirituel ou dans l'écriture du motet. C'est-à-dire que c'est des cantates dont les mouvements s'enchaînent de façon extrêmement fluide. Il n'y a pas réellement de mouvement, en fait. Elles sont construites en un seul bloc, avec une architecture bien précise à l'intérieur. Alors qu'après, quand il arrive à Leipzig, il est très influencé par l'Italie, et donc par l'alternance des arias et récitatifs, qui crée un rythme complètement différent dans le déroulement de la cantate. Et ça par exemple, ça saute aux oreilles immédiatement. Et puis après, dans son langage, il y a plein de choses aussi qui peuvent nous indiquer plus ou moins la période, quand même, à laquelle il a écrit.
Par exemple, au niveau de l'écriture des voix ou...
Oui, au niveau... disons que, encore une fois, les cantates de jeunesse sont marquées par le Stilus Fantasticus, par exemple, aussi, issu de Buxtehude. Je dirais qu'il y a une sorte de parfum 17e siècle dans les premières cantates qui... elles ont une audace particulière. Elles sont, d'un certain point de vue, plus libres. Elles vont droit à l'essentiel. Et cela dit, après, toute son écriture plus tardive est aussi magnifique. Hein, mais il y a davantage le style galant qui fait son apparition. Il y a quelque chose d'un petit peu plus... Comment dire peut-être un petit peu moins spontané, mais
voilà. Oui, c'est à la mesure du génie.
Voilà. Ouais.
Vous êtes claveciniste, Olivier ouais. Spilmont. Est-ce que un claveciniste dirige différemment d'un autre instrumentiste? Enfin, je pense quand on pense au cantate de Bach, bien sûr, on pense à l'itinéraire ouais. de Nicolas Harnoncourt ou tous vos grands prédécesseurs.
Oui, bien sûr.
Qui étaient eux issus de l'orchestre.
Mais je sais pas, je suis pas super bien placé pour exactement m'en rendre compte. Ce qui me semble assez logique, par contre, c'est que quand on est claveciniste, on fréquente quasiment quotidiennement l'œuvre de Bach sur son instrument. Et ça, évidemment, ça ajoute une dimension supplémentaire. Et voilà, ça me semble... disons qu'on on a une sorte d'évidence un peu plus grande avec ce langage. C'est très difficile de dissocier Bach du clavier. Autant d'abord de l'orgue et ensuite de tous les instruments à clavier.
Alors on va citer quand même tous les musiciens. Stéphanie Paulet, violon 1, Camille Aubray, violon 2, Julien Martin, Marine Sablonnière, flûte à bec, Neven le sage, hautbois. Alors justement, une parenthèse, le hautbois, ça aussi dans les cantates de Bach, il a une place très particulière.
Oui, c'est l'instrument du berger, c'est l'instrument qui symbolise le fidèle. Et en effet, c'est peut-être l'instrument le plus employé dans ces cycles de musique sacrée. Et après, il y a des déclinaisons. La cantate centrale fait appel au bois d'acacia, qui est un instrument très très spécial.
Donc un hautbois qui a une forme de hautbois.
Oui, qui a une forme. C'est un hautbois qui a une forme. Oui, c'est un hautbois. Mm-hmm. Il fait partie de la famille des hautbois, mais il a une sorte de petit pavillon.
Oui.
Et il a une sonorité très très particulière. C'est un instrument qui a été inventé plus ou moins, enfin pas plus ou moins, qui a été inventé précisément à l'époque de Bach, et à notre connaissance, c'est Bach le premier à s'en être emparé, et il l'utilise toujours dans des moments clés, voilà, de par sa sonorité. Il a une sonorité particulièrement déchirante, je trouve. Ouais.
Ah oui, non, mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que c'est quand même une musique avec des textes douloureux, mais qui à l'écoute ne donne pas ce sentiment, c'est ça qui est,
ouais,
qui est difficilement explicable.
C'est l'art de l'alchimie.
Alors les autres instrumentistes, Andreas Linos, Josh Chetham, la viole de gambe, Octavie Dostaler, la londe au violoncelle, Christian Staud, la contrebasse, Inga Maria Klauk au basson et Johan Moulin à l'orgue, et puis les chanteurs Elodie Fonard, soprano, William Shelton à l'alto, Thomas Hobbs, ténor, et Romain Beauclair, basse. Ça aussi, les chanteurs sont des gens avec lesquels vous travaillez.
Oui, tout à fait. Oui, c'est une équipe avec laquelle on a l'habitude de travailler. Oui, tout à fait.
Vous êtes lié à un lieu particulier, je crois, à Boulogne-sur-Mer.
Oui, l'ensemble est en résidence à Boulogne-sur-Mer depuis un an et demi. Et voilà, donc on a une implantation territoriale là-bas. Ouais.
Et alors, question... cuisine, excusez-moi encore, vous avez une partition d'une cantate de Bach. D'abord, comment elle a traversé les siècles? Est-ce que ce sont des œuvres qui ont été imprimées assez rapidement ou...
Ah, c'est une excellente question. Par exemple, pour l'Actus Tragicus, donc la cantate qui termine ce disque, c'est une copie qui nous est parvenue. Il n'y a pas d'autographe de sa main. C'est une copie qui est un petit peu tardive, je pense 1750 dans ces eaux-là.
Donc Bach, je rappelle aux auditeurs que c'est l'année de la mort de Bach.
Oui, voilà. Ou je crois que c'est 1756 exactement, la copie.
L'année de la naissance de Mozart. Mais il n'y a aucun lien entre les deux événements.
Pour certaines cantates, il nous reste en effet les originaux. Mais non, ça, ce sont des partitions qui n'ont pas été éditées.
C'est destiné à un usage
très ponctuel, hein, oui. pour une seule représentation. C'est ça qui paraît fou. C'est la qualité incroyable de ces œuvres ont pu être écoutées qu'une seule fois. Après, je pense quand il avait des œuvres auxquelles il tenait particulièrement et qu'elles pouvaient être recyclées, il les réutilisait.
Dans certaines passions
et dans certaines cantates. Les cantates sont un laboratoire pour Bach. C'est un laboratoire d'écriture. À l'intérieur de ça, il va faire toutes les expériences possibles.
Et alors, j'ai écouté votre disque plusieurs fois avec un grand bonheur. Et alors, je dois avouer que je ne connaissais pas ces cantates. Et alors, je mets la dernière, Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. Et puis la sonatina, je me dis, mais pourquoi je connais cette musique? Et en fait, c'est parce que Courtag l'a arrangée pour deux pianos. Enfin, cette air qui est absolument sublime.
Ah, je savais pas. D'accord.
Cette air est absolument sublime, cette sonatine à la flûte.
Oui, oui, oui.
C'est un thème absolument bouleversant. Et je me dis, mais pourquoi je connais alors que je ne connais pas le reste? Et en fait...
Il y a une sorte d'évidence incroyable dans cette petite sonatina.
C'est-à-dire qu'il y a toujours des diamants au milieu de ces joyaux.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est une des premières cantates qui a été rejouée après sa mort. Parce que très longtemps, la plupart des cantates sont restées endormies. Et comme les passions, on sait, c'est Mendelssohn qui les a un peu ressuscités.
Et vous, votre apprentissage de la direction de ces cantates, vous l'avez fait au fil du travail en commun avec les musiciens, vous les avez travaillés aussi avec certains maîtres de la direction ou...
Moi, mon parcours est assez atypique, mais dans le sens où j'ai peu fréquenté les conservatoires. J'ai commencé la musique en chantant à 6 ans dans une maîtrise et dans cette maîtrise qui était une maîtrise à horaires aménagés, il y avait l'apprentissage des claviers, etc. Et c'est bien plus tard d'ailleurs que je me suis rendu compte que j'ai eu la chance finalement de recevoir la formation qu'ont reçu tous ces compositeurs, parce que avant on commençait forcément la musique en chantant. Ce qui est la façon la plus naturelle et la plus utile, je pense, pour apprendre la musique. Et après, disons que j'ai un parcours qui est surtout jalonné de rencontres. Mais donc oui, j'ai eu un maître de direction.
Mais vous parlez des claviers, parce que c'est pas courant de se retrouver avec des clavecins comme ça quand on est enfant ou adolescent.
Alors non, je n'ai pas commencé par le clavecin. J'ai d'abord étudié le piano et par contre avec cette maîtrise d'enfant, dès mon plus jeune âge, on a fait énormément de concerts de musique baroque avec Jean-Claude Malgoire.
Ah oui, un grand nom à l'époque.
Voilà, qui m'a donné le goût en fait. Et donc c'est ensuite.
Et lui, il était dans le Nord, il était à Roubaix.
Tout à fait, à Tourcoing.
Tourcoing, oui.
Tourcoing,
pardon.
Oui, voilà. Donc on a fait beaucoup d'opéras avec lui, beaucoup de tournées, des disques. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ce monde sonore qui est quand même très particulier, celui de la musique ancienne et baroque.
Et donc vous en arrivez au clavecin, puis à la direction, et donc avec ces trois cantates qui font suite à d'autres cantates. Et alors pour parler toujours cuisine, quand vous vous retrouvez face à ces partitions, au niveau des tempi, comment vous arrivez à trouver le tempo qui vous paraît le plus naturel?
Mais, par exemple, pour la première cantate, la 131, et la dernière, la 106, comme je vous disais tout à l'heure, elles sont construites d'un seul tenant. Et donc, il me paraissait très important d'essayer de trouver une fluidité qui permette de passer d'un mouvement à l'autre, ces mouvements n'étant pas réellement marqués. Et donc, il y a une, je suis assez soucieux du sentiment d'unité qu'on doit garder dans ces cantates. Je crois que c'est quelque chose d'important, sans gommer les aspérités et les contrastes, évidemment, mais il faut, à mon sens, qu'il y ait une unité qui se dégage d'une cantate comme celle-ci. Et donc, les tempi, finalement, se trouve assez facilement, je trouve.
Et alors, c'est un compositeur dont vous sentez... Est-ce que c'est finalement le compositeur dont vous sentez le plus proche, Bach?
Disons que c'est celui que je fréquente le plus depuis une quinzaine d'années. Me dire que je me sens proche de lui, je trouve que ce serait prétentieux, mais en tout cas, c'est celui que j'admire le plus et celui qui me fascine le plus, oui, pour l'instant.
Donc voilà. C'est infini, enfin vous pouvez continuer.
Ah oui, c'est infini, ouais, tout à fait.
Vous enregistrez 6 cantates à ce jour.
Oui,
vous
c'est très peu.
Vous en restez 196.
Non, c'est pas du tout mon intention. J'ai pas du tout l'intention de faire une intégrale.
Une intégrale. Non. Mais c'est quand même, il y a quelque chose de mystérieux chez Bach, qui, encore une fois, excusez-moi d'y revenir, mais enfin, c'est quand même un compositeur à part. Enfin, il y a des génies contemporains de Bach, Haendel, Scarlatti ou d'autres, mais Bach, enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est unique et que son génie résiste à tout
J'ai envie de répondre ce que vous citiez tout à l'heure. Il y a quand même une part de mystère qu'on peut pas déchiffrer. Après, on peut déplier les arguments les uns après les autres et ça pourrait durer des heures. Évidemment qu'il y a plein d'explications à ça. Il y a un sens de la construction qui est absolument gigantesque chez lui, mais qui est lié toujours à une sensibilité extrême et une spiritualité extrêmement profonde aussi. Je crois que son parcours aussi, c'est d'ailleurs, je vois que le livre de Cantagrel est sur le bureau.
J'ai révisé, vous vous confiez, comme je voyais qu'il avait écrit le texte du disque. C'est quand même un des grands auteurs
bien sûr,
quand on s'intéresse à Bach.
J'aurais tendance à, je ne sais pas si ce n'est pas romantisme, mais j'aurais tendance à partager une vision de Cantagrel qui dit que Bach finalement a construit sa vie a construit une espèce de forteresse intérieure avec la musique, c'est-à-dire qu'il a eu un parcours qui était quand même pas du tout évident, orphelin, et puis après tout au long de son existence il a perdu beaucoup d'enfants, on perdait beaucoup d'enfants à cette époque, bien évidemment, mais il est largement au-dessus de la moyenne, et donc je dirais qu'il a eu quand même un parcours qui l'a mis à rude épreuve en tant qu'homme, et la foi qui pour lui est totalement lié à la musique, a été, je crois, un refuge absolument nécessaire. Et voilà, tout ça lié à... Ce qu'il y a d'incroyable chez lui, c'est qu'en effet, sur chaque pièce, même la plus petite, on a constamment l'impression qu'il donne le meilleur. Il y a très peu de pièces... Il n'y a aucune pièce médiocre. Oui. Il y a des pièces qui sont...
Oui,
à mon sens, quand même,
qui n'ont pas la même dimension
supérieure à d'autres, ouais. Mais il y a absolument jamais rien de médiocre chez lui, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de compositeurs.
C'est un compositeur que vous jouez au clavecin.
Oui,
ça se passe comment? C'est une nécessité quotidienne, Olivier Spilmon?
Oui, en tout cas, je le fréquente. Je le fréquente quasi quotidiennement. Je viens d'ailleurs d'enregistrer il y a 3 semaines. Un programme de clavecin solo.
Avec une suite française, une suite anglaise et une partita.
Tout à fait.
Mais des œuvres qui sont contemporaines entre elles ou pas du tout? Non, c'est un voyage au gré de vos humeurs.
Non, j'ai pas choisi en tout cas de chronologie particulière, mais en effet, c'est dans les années 1720 la plupart, sauf peut-être les suites françaises.
Donc on parlait des autres musiciens avec lesquels vous avez enregistré ce disque, et je les ai cités parce qu'ils sont tous absolument merveilleux. Mmh. Donc vous travaillez depuis longtemps avec eux. Comment ça se passe? Vous arrivez, vous réunissez pour des sessions de travail, d'enregistrement
Oui, c'est ça. Là, par exemple, ce disque, on l'a fait suite à un concert. Et puis, toutes ces cantates, on les avait quand même éprouvées de nombreuses fois en concert avant de les enregistrer. Et même si maintenant on a tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on enregistre et puis on fait les concerts après, je suis resté un peu ancienne école, c'est-à-dire que je préfère largement éprouver les pièces en concert pour les enregistrer après. Parce qu'en fait, ce qui me semble aussi très important pour un disque, c'est qu'il puisse résister à des écoutes successives.
C'est le cas, hein, je peux vous assurer.
J'en suis... heureux. Ça me semble vraiment très important. C'est aussi ce qui différencie le disque du concert. Au concert, le geste peut être d'une certaine façon plus spontané, plus direct. Mais au disque, il faut que le disque résiste au temps. Et pour ça, à mon sens, il faut que les intentions ne soient pas trop visibles. quand une intention est trop visible, une intention musicale est trop visible, elle a tendance au bout d'un moment à agacer. Je veille à ça particulièrement. C'est-à-dire que, voilà, il faut qu'une œuvre soit mûrie pour pouvoir la graver.
Il faut dire aussi que vous parlez des écoutes qui ne lassent pas, c'est des œuvres aussi, parce qu'il y a des compositeurs, mais il y a certaines œuvres de musique qu'on adore, ou des tubes et d'autres, mais au bout d'un moment, on peut en avoir fait le tour, mais cette musique, on ne peut jamais en avoir fait le tour.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois qu'il y a quand même des interprétations qui parfois peuvent lasser, même de cette musique.
Bah, pas la vôtre, en tout cas,
tant
je
mieux,
rappelle
tant mieux, tant mieux.
La parution de ce disque pour le label Parati, Anti Melancholicus, avant de vous recevoir prochainement, Olivier Spilmon, quand
avec plaisir.
Solo qui paraîtra. Donc votre ensemble Aliamens, avec les chanteurs et les instrumentistes que j'ai cité, et puis bon, enfin, on a envie de citer chacun, mais c'est vrai que il y a des instruments solistes comme la flûte à bec ou le hautbois qui sont particulièrement extraordinaires dans ce disque.
Oui, qui sont particulièrement exposés, et là ils sont joués par de magnifiques instrumentistes, voilà, Julien Martin et Marine Sablonnière à la flûte à bec, Neven Le Sage au hautbois. Voilà, c'est sûr aussi que le choix des partenaires dans un ensemble, c'est une grande partie de la recette magique.
Bah, cette recette, elle fonctionne effectivement magiquement. Ce disque, d'ailleurs, j'en terminerai avec la photo. Les photos du disque sont très belles aussi, qui donnent une atmosphère.
Oui, tout à fait. On a eu la chance. C'est une photo de Vincent Munier, voilà, qui est un photographe dit animalier, qui s'est fait connaître récemment avec le documentaire La Panthère des Neiges avec Sylvain Tesson. Voilà, je crois que c'est un homme particulier, Vincent Munier, avec une pensée très profonde sur les choses, et la musique de Bach l'a tout de suite convaincu d'accepter de nous prêter une image. Et on était très heureux de ça.
Bah ça va, entre Gilles Cantagrel et lui, les aides ont été prestigieuses. Ouais. En tout cas, ce disque avec ses trois cantates de Bach est absolument merveilux. Olivier Spilmon, il me reste
beaucoup
à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
Merci beaucoup.